Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Minutes des Fiertés, l'émission flash de Esprit Occitanie à thème LGBT et féministe. Aujourd'hui et en 20 minutes, nous nous intéresserons à la sortie du biopic sur la célèbre chanteuse Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, sorti en salle le 21 décembre, et à ce qu'il révèle de la sexualité de la chanteuse. Pour ceux qui auraient du mal à remettre son nom, Whitney Houston est une chanteuse, actrice, productrice de musique et mannequin américaine des années 80-90. Elle est l'interprète de la fameuse chanson qui est aussi le titre du film et de I Will Always Love You. Comme dit précédemment, ce film, en son honneur, met véritablement en avant la bisexualité de la chanteuse dans une société encore assez homophobe à l'époque. Violette Cordaro, présidente de l'association NoSig, le centre LGBT de Nantes, fondé en 1997, est aujourd'hui notre invitée. Et enfin, nous aborderons le sujet de l'autorisation pour les pharmacies états-uniennes de vendre la pilule abortive. Bonjour Violette Cordoraro, merci d'être avec nous. Avant de commencer cette interview, je vais vous laisser vous présenter, vous et votre association, afin d'en dire plus aux auditeurs.
Bonjour, donc je suis Violette Cordoraro de Nantes. L'association NoSig, dont je suis la présidente, est un centre LGBTQIA+. NoSig veut dire nos orientations sexuelles et identité de genre. Donc c'est une association qui regroupe des personnes qui sont aussi bien concernées par des orientations sexuelles non conformes à ce que la société voudrait, ainsi qu'à des identités de genre aussi variées que diverses. Notre association aujourd'hui est principalement axée sur la défense des demandeurs en droit de droit d'asile devenus de pays LGBTQI-phobes et sur les interventions en milieu scolaire ou auprès de professionnels d'information et de sensibilisation aux discriminations. Et bien sûr la santé qui est aussi un volet important de notre association. Cette association existe à Nantes depuis 25 ans cette année.
Alors, pour commencer sur notre sujet, sur le biopic de Whitney Houston, je vous propose d'écouter la bande-annonce, peut-être, avant de commencer cette interview.
Très bien.
Ladies and gentlemen, please welcome Whitney Houston!
C'est une critique qui revient souvent sur vous et votre musique. On dit que vous êtes une vendue.
Et depuis quand c'est les autres qui m'imposent qui je dois être?
La musique n'a pas de frontières. Je chante ce que je veux, je décide qui je veux être, et je veux toucher un public aussi large que possible. Il n'y en a pas deux comme toi. Tu as une voix unique.
Whitney, tu es ma petite princesse. On s'occupe de développer ta carrière. Tout ce que tu as à faire, c'est chanter.
Papa, mon argent. Je te faisais confiance. Tu étais censé me protéger.
Vous deux, vous passez beaucoup de temps ensemble. Ça nuit à l'image de la marque.
Depuis quand ta fille est devenue une marque? J'ai loupé un épisode.
Te prends pas la tête avec ça. T'es Whitney Houston.
Ça t'a fait quoi? Tous ces témoignages d'amour de ces millions de gens. J'ai jamais rien ressenti d'aussi fort.
Alors, on vient donc d'entendre la bande-annonce du biopic sur Whitney Houston, sorti en salle le 21 décembre, comme dit précédemment. Alors, Madame Cordoraro, pour remettre un peu de contexte, j'aimerais d'abord vous demander ce que ça représente d'être bisexuelle dans ces années-ci. Est-ce que c'était une sexualité démocratisée, acceptée?
Alors déjà, les années de Whitney Houston, c'est des années où moi-même, je découvrais que j'étais ambivalente, si je peux dire. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, il y avait une totale invisibilité sur la bisexualité. Les seules images que l'on avait de la bisexualité, c'était des personnes qui étaient en fait des personnes pluri-amoureuses, qui pouvaient avoir des histoires d'amour en même temps, avec des hommes, des femmes, ce qui est très loin de la réalité. Et ce qui m'a empêchée, moi, dans ces années-là, où j'avais 19 ans, 20 ans, de pouvoir m'identifier en tant que bi, puisque ça ne correspondait pas aux images que donnaient les médias à ce moment-là. Donc l'invisibilité et surtout les stéréotypes sur la bisexualité à l'époque étaient particulièrement ancrés dans la société et c'était compliqué pour les personnes comme moi de pouvoir savoir qui on était. J'ai vraiment compris quelle était ma sexualité qu'à 60 ans, 40 ans plus tard.
Alors vous parlez de votre expérience personnelle dans ces années-ci.
Par rapport à Whitney Houston.
Oui, dans ces années-ci justement. Est-ce que ce genre de film aurait choqué à cette époque ?
Alors je vais être franche, je n'ai pas vu le chiffre, je n'ai pas vu le film, mais je ne sais pas comment a été montrée la bisexualité de Whitney Houston, mais j'espère que c'est pas encore dans l'aspect plusieurs histoires d'amour en même temps avec voilà des personnes de genre différents. Mais à l'époque, je pense que on aurait dit que comme d'habitude, c'est une femme qui sait pas ce que c'est qu'un vrai homme et que le jour où il y aura un vrai homme qui s'occupera d'elle, elle oubliera les femmes, ou ce genre de réflexion qu'on peut avoir, ou simplement des réactions aussi du milieu gay, qui était très biphobe à ce moment-là, de dire que les personnes bi, c'était en fait des gays qui s'assumaient pas. Voilà. Donc je pense que c'est ce genre de réflexion qu'on aurait pu avoir à l'époque, de dire que si Whitney Houston va vers les hommes et vers les femmes, c'est qu'en fait c'était une lesbienne qui s'assume pas.
Vous, en tout cas, à titre personnel, à cette époque, vous n'avez pas vu de film de ce genre auquel vous auriez pu, enfin, de célébrité à laquelle vous auriez pu vous identifier.
Mais non, il y avait déjà, il y a très peu d'images sur le monde homosexuel ou trans. C'était complètement invisible à la télévision de l'époque. Et quand c'était montré, c'était toujours d'une certaine manière. Les personnes trans étaient souvent des méchants dans certains films. Et puis les gays avec tous les clichés de personnes très efféminées ou très drôles, voilà, mais qui ne correspondent en rien à la réalité. Et puis c'est les sida. Donc il y avait aussi cette peur de ce monde qui véhiculait une maladie mortelle, il ne faut pas l'oublier.
Oui, justement, on va revenir sur ces connotations un peu négatives juste après. Alors, est-ce que selon vous, ce film, c'est un peu une preuve de l'évolution de l'ouverture d'esprit de la société, du milieu du cinéma à ce genre de sexualité, justement,
Ça, c'est important. Ça, c'est important. On a de plus en plus de visibilité alors dans des films, mais j'ai parlé aussi, on en parle souvent, mais Netflix qui montre des personnages qui ont des identités de genre très diverses ou des orientations sexuelles aussi bien identifiées, mais dans des films sur lesquels ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire que c'est des personnes normales dans un film qui sont comme ça, mais c'est pas le sujet du film. Ça rend finalement les personnes LGBT plutôt banales, et c'est de ça dont on a besoin. Et les jeunes aujourd'hui, heureusement, ils ont ce genre de film. Puis ils ont aussi un outil que nous, on n'avait pas à cette époque-là, c'est Internet. Donc ça, c'est aussi une ouverture qui permet aux jeunes de s'identifier beaucoup plus tôt, de comprendre beaucoup plus tôt leur ressenti, de comprendre qu'ils sont trans, qu'ils sont non-binaires, qu'ils sont gays, et de pouvoir s'assumer et de pouvoir aussi se regrouper avec des personnes comme eux et créer autour d'eux une cellule safe,
sûr. Et bien justement, il y a beaucoup de personnes qui s'agacent un peu, on peut dire, du fait que Netflix, que les séries, que les films mettent de plus en plus en avant des personnages lambda, en fait, qui s'avèrent être, comme vous le disiez, transsexuels, bi, homosexuels, etc. Est-ce que le cinéma est en train de surfer, selon vous, sur une vague LGBT, si on peut dire?
Non, je dirais c'est juste remettre les choses en place. Ces personnes-là ne se rendent pas compte que malgré cette visibilité nouvelle, on a quand même une grosse majorité de visibilité hétéro, cisgenre, blanche, voilà, dans le cinéma et dans l'art aujourd'hui. Donc, au contraire, c'est peut-être banaliser un peu les choses, c'est permettre d'ouvrir les esprits, de se rendre compte qu'on vit ensemble, en société, avec des personnes de toute orientation, de tout genre, et que finalement c'est pas grave, que finalement c'est pas important, que ça n'a pas lieu de donner lieu à de la haine ou de l'agression ou du jugement. Donc ces personnes-là sont des personnes qui ont certainement des craintes ou des religions qui vont faire que cette présence-là les gêne. Mais ça ne représente que la société aujourd'hui. Tout le monde a des collègues gays, peut-être sans le savoir. Tout le monde voit de jeunes, de plus en plus de jeunes aujourd'hui s'assument en tant que trans ou non-binaire et ça devient finalement banal. À Nantes, où on intervient très souvent dans des collèges en milieu rural, on rencontre au niveau du collège ou des lycées déjà des jeunes qui s'identifient trans ou non-binaires. Mmh. Donc c'est simplement pas plus qu'avant, simplement les jeunes savent mieux qu'avant ce qu'ils sont et s'assument plus tôt, c'est tout.
Et leur récente mise en avant, ça rééquilibre un peu la balance, quoi.
Ça rééquilibre la balance et ceux qui trouvent que c'est trop, non, en fait, c'est encore pas tout à fait assez. Mais en fait, ça c'est juste montrer la société telle qu'elle est avec, on estime que entre 10 et 15% de la population est concernée par les sigles LGBTQIA+, donc voilà, c'est la norme. Il n'y a pas besoin non plus de les mettre en avant comme personnages centraux, ce que fait très bien Netflix dans certaines séries, où c'est juste des personnages qui vivent leur vie normalement. Et c'est tout, de rendre finalement les choses ordinaires.
Et alors tout à l'heure, vous parliez de clichés, de connotations pas très positives. Donc le cinéma LGBT, il se diversifie de plus en plus par ses œuvres. Donc on a bien sûr La vie d'Adèle, Été 85, plus récemment, oui. 120 BPM. Est-ce que selon vous, tous ces films donnent une image positive de la communauté LGBT? Parce qu'on est quand même souvent sur des histoires impossibles, complexes, parfois des connotations avec le sida, etc.
Ben, c'est malheureusement, si aujourd'hui il était facile d'être encore LGBTQIA+, peut-être que ces films seraient plus positifs, mais aujourd'hui ils démontrent aussi une réalité. On a encore trop de jeunes, on a encore l'exemple près de Nantes, il y a 2 semaines, d'un jeune garçon qui s'est suicidé au collège, un jeune gay, à cause du harcèlement des élèves autour de lui. Donc aujourd'hui, la vie n'est pas toute rose. Que les films reflètent aussi ce côté-là, c'est normal, parce que malheureusement, on n'est pas tous des crevettes pailletées, quoi. Donc aujourd'hui, on a quand même encore besoin de montrer la souffrance de jeunes homosexuels, de jeunes trans, pour qu'on puisse comprendre que là, il y a des dangers de vie ou de mort sur ces jeunes-là, qu'il y a un besoin que la société puisse changer pour que ces jeunes puissent vivre normalement. Et les films retracent aussi ça. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, toute la situation est rose. On est dans un pays plutôt libre, on est dans un pays où les lois sont pour nous. Pour autant, l'homophobie, on la subit, mais tous les jours, et même dans les médias. J'ai osé parler d'émissions comme TPMP où des propos transphobes sont dits de manière particulièrement violente encore il y a une semaine, sans que pour autant on se rende compte que derrière c'est des souffrances, c'est simplement des agressions quand on a des émissions comme ça. Donc le monde n'est pas rose aujourd'hui en France pour ces personnes-là.
Alors,
et les films le reflètent bien.
Vous n'avez pas vu, comme vous l'avez dit, ce biopic sur Whitney Houston, mais est-ce que vous avez déjà vu un film qui met en lumière une relation homosexuelle ou bisexuelle sans tomber dans des clichés ou sans la survoler ?
Oh, je ne sais pas si je suis bien placée pour en parler. J'ai en train de chercher parce que j'en ai vu quelques-uns quand même. C'est vrai que souvent, les films qui me plaisent, c'est pas forcément proche d'arrêter. J'ai adoré La Jeune Fille en Feu, par exemple. Mmh. Mais c'est dans une autre époque. Des films qui se passent aujourd'hui dans le réel, je trouve qu'il y a toujours un peu de clichés. Mais dans tous ceux que j'ai vus, il y a toujours un peu de clichés.
Même pour Portrait de la Jeune Fille en Feu, même si c'est pas de notre époque, même si c'est fantasmé, etc., est-ce que vous pouvez dire qu'on tombe dans l'écueil de la relation lesbienne, cliché,
non, complètement dans ce film-là, justement, dans ce film-là, moi, ce qui m'a marqué, c'est un film d'une beauté photographique déjà extraordinaire, mais c'est de montrer que l'amour, finalement, entre l'amour n'a pas de genre, que l'amour peut être fort, quel que soit le genre des personnes, et l'amour entre ces deux femmes est tellement beau, dans ce film est tellement bien dépeint, tellement l'approche de cette découverte amoureuse entre ces deux femmes est juste magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai ressenti. J'ai vu ce film deux fois ou trois fois. J'ai à chaque fois les mêmes émotions. Alors, peut-être parce qu'aujourd'hui je suis avec une femme aussi que à travers ce film je me vois, mais c'est un film qui montre pas simplement d'amour, et je pense que finalement c'est ça le principal. Parlant d'orientation sexuelle, parlant de l'identité de genre, ce qu'il faut parler d'amour, c'est simplement de l'amour, et que l'amour n'a pas de genre, point. À partir du moment où l'affectif ou le romantisme est là, on ne fait de mal à personne, on n'agresse personne, on ne met pas en cause les bases de la société, et foutez-nous la paix, quoi. En gros, ça serait bien. Donc, ce genre, je suis plus sensible au genre de film qui montre que l'amour existe simplement, et que le genre, ça n'a pas d'importance.
Alors, pour en revenir au sujet du film, est-ce que pour vous, ça peut être un moyen d'ouvrir des esprits, ou seulement les convaincus sympathisants de la communauté LGBT, si on peut dire, iront le voir ?
Oh, je pense que ça peut permettre, parce que bon, ce film-là, en tout cas, c'est un biotype d'une personne que tout le monde a aimée dans les années 80, donc ça. Je pense que c'est important que... Je pense que tout le monde ira le voir, pas seulement la communauté LGBT. Mais oui, ça peut permettre aussi à des personnes de ma génération. Alors bon, j'avais 20 ans dans les années 80. J'en ai un petit peu plus aujourd'hui, de ma génération, de se rendre compte que finalement, on vit au milieu de toutes ces personnes-là. À la télévision, elles sont partout. Et qu'il n'y a pas besoin d'être caché, et que finalement... Ça n'empêche pas que Whitney Houston était juste l'artiste qu'elle était. Mmh. Ça ne change rien à la personne qu'elle était, qu'elle soit bi ou pas, qu'est-ce que ça peut faire, quoi. On a admiré la personne telle qu'elle est, on a admiré sa voix, ça suffit. Je veux dire qu'on n'a pas besoin de savoir, c'est pas important finalement, son orientation sexuelle. Je pense pas que les gens qui l'ont aimé vont arrêter de l'aimer à cause de ça, en tout cas. Alors, ça peut effectivement permettre d'ouvrir l'esprit de certaines personnes.
Alors justement, donc on parle de Whitney Houston, une star internationale, et j'aimerais vous demander si selon vous, on doit outer les célébrités, c'est-à-dire révéler leur sexualité au grand public.
Ne jamais outer quelqu'un, alors ça c'est vraiment... les médias qui se permettent de le faire, c'est d'une violence inouïe. Enfin, nous, ça fait partie des règles que l'on a mis en place dans notre propre association. C'est de ne jamais outer personne, même à l'intérieur de notre communauté. C'est-à-dire que si des jeunes arrivent dans une conviviale, on va pas lui dire, bah toi, un tel, il est bi comme toi, tu peux aller le voir. Non. On n'out même pas à l'intérieur de notre communauté. Il faut respecter la personne. Elle s'out si elle le veut, c'est son problème, c'est sa décision, c'est son choix. Et surtout ne jamais outer qui que ce soit. Ouais, je sais pas, c'est comme si je vais peut-être être vulgaire, mais c'est comme si je devais dire bah tiens, telle personne elle est hétéro, mais en fait c'est aussi SM, c'est aussi préfère la position de levrette à autre chose, c'est-à-dire ça voilà, c'est quelque chose qui relève de l'intime. Et c'est aussi violent que ça. Tout comme on ne pose pas la question de personne trans de savoir si elle est opérée ou pas. Qu'est-ce que ça peut, en quoi ça concerne les gens de savoir ce qu'il y a dans la culotte des gens, quoi. J'ai pas demandé à un homme quelle est la taille de son sexe, c'est la même chose. Enfin, et aujourd'hui, il y a cette curiosité malsaine qui va faire que on va vouloir dénoncer. Mais ce que quand on dit outer dans ce cas-là, c'est vraiment dénoncer, comme si c'était un crime, la personne qui va être différente. Et c'est vraiment violent à chaque fois, parce que effectivement, la personne va peut-être s'outer à un moment donné, mais quand elle sera prête, et puis va peut-être le faire d'abord avec sa famille, d'abord avec ses proches avant de le faire autrement, et que d'être outé comme ça violemment, ça peut avoir de graves conséquences.
Alors parmi ses proches. Vous parliez des jeunes, pour les personnes qui décident de s'auto-outer, on peut dire, de révéler eux-mêmes
leur sexualité. De faire un coming out. Voilà.
Coming out. Quelle utilité ça peut avoir, par exemple, donc pour des jeunes qui n'osent pas en parler, qui n'assument pas auprès de leurs proches?
L'utilité d'un coming out?
Oui, d'une célébrité, de quelqu'un de connu auquel ils peuvent
s'identifier. Ah, alors ça, c'est important. Ça, oui, c'est important. D'avoir des célébrités qui publiquement disent qu'ils sont, et ben, ça permet toujours d'avoir une référence, d'avoir un modèle. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ma femme est une femme trans. Elle a aujourd'hui plus de 50 ans. Elle vient d'une époque où la transidentité, on n'en parlait absolument pas. C'était invisible. Elle n'avait aucune référence. Elle a cru longtemps qu'elle était effectivement quelqu'un de pas normal, de quelqu'un de malade, jusqu'à ce qu'elle puisse avoir les bonnes informations et rencontrer les bonnes personnes et faire sa transition assez tardivement. Mais ces jeunes aujourd'hui, s'ils se révèlent plutôt dans leur transidentité ou dans leur non-binarité ou dans leur sexualité, c'est que justement il y a plus de modèles, il y a plus de visibilité, donc ils peuvent se référer à des vedettes, il y en a de plus en plus, des connus et même à des personnages de films, mais au moins ils ont des modèles et ça leur permet de s'identifier, de se construire et de se construire de manière saine sans qu'on leur fasse croire qu'ils sont malades ou leur faire croire qu'ils sont anormaux. Donc c'est ça qui est important, permettre à ces jeunes de pouvoir se construire avec des modèles qui soient réels ou autres, mais des modèles qui leur correspondent.
C'était très intéressant, leur tourne, les cordes à rouge, je vous remercie pour cette interview, c'était très intéressant.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Partons maintenant aux États-Unis où les droits des femmes ont repris un peu de leur force depuis quelques semaines dans un contexte assez rétrograde pour les Américaines depuis quelques mois. L'Agence américaine du médicament a annoncé le 3 janvier la possibilité pour les pharmacies de délivrer la pilule abortive. Jusqu'alors, les Américaines ne pouvaient se la procurer que par le biais de pharmacies en ligne, de cabinets médicaux ou de cliniques. Elles auront cependant toujours besoin d'une ordonnance pour se l'avoir délivrée, mais ces dernières pourront maintenant la recevoir par la poste. Ce qui est donc aussi un grand changement pour les zones rurales où ce type de médicament est plus compliqué à obtenir. Cette décision intervient dans un contexte troublé pour les droits des femmes aux États-Unis. Rappelons que la Cour pénale a autorisé il y a 6 mois de ça les États américains à légiférer librement sur le droit à l'avortement. Depuis, plus d'une quinzaine d'États comme le Tennessee, le Texas ou l'Alabama ont décidé de l'interdire. Cette nouvelle possibilité s'applique donc uniquement pour les États où l'IVG est encore autorisé, évidemment. Selon le Washington Post, cela montrerait le désir de l'administration du président Joe Biden de maintenir l'IVG accessible après la décision de la Cour suprême, je cite. Cette émission touche à sa fin, c'en est tout pour l'actualité LGBT et féministe aujourd'hui. Nous avons voyagé encore une fois du monde du cinéma jusque de l'autre côté de l'Atlantique pour passer de questions presque philosophiques à des questions de législation. Je remercie Violette Cordaro, présidente de l'association Centre LGBT Nantes NOSIG, d'avoir été notre invitée. C'était les Minutes des Fiertés sur Esprit Occitanie. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.